fait quoi aujourd'hui, hein?
Ah, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Il y en a plus. Oh, il n'y a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là. Ce casque qui marche pas.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars, courage.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale vivement ce soir qu'on se douche ou qu'on se mouche ou qu'on se couche. Bon, on va falloir trouver d'autres trucs. Pendant que les grands de ce monde se sont rassemblés au G20, quelques petits se sont retrouvés aussi, et c'est le cas de Radio Sainte-Afrique, puisque nous nous sommes rendus ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, à Lyon pour le congrès national des radios associatives. C'est un congrès qui s'intitule 30 ans de créativité et d'innovation. Ayant fêté nos 30 ans récemment, vous aurez compris que nous faisons partie des toutes premières radios associatives nées en France. C'est bien ça, Elsa, non?
Ouais.
C'est la classe. Ce congrès a été organisé par la CNRA, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Confédération Nationale des radios associatives. Nous y avons débattu de la place et de l'avenir de ces médias de proximité, de leur rôle et de leur impact sur les territoires, mais aussi de leur difficulté de survivre dans ce contexte en crise. Bon, faut que vous sachiez que le fonds de soutien accordé par le gouvernement aux radios associatives est de 29 millions d'euros. Le problème actuellement, c'est que les charges augmentent considérablement chaque année et que le fonds de soutien, lui, reste le même. De plus, de nombreuses radios voient le jour d'année en année, donc ça divise davantage cette aide par radio, quoi. Et oui, et sachez qu'il existe aujourd'hui en France près de 900 radios, dont la moitié sont associatives, ce qui est quand même pas mal. Ceci fait de la France l'un des paysages les plus riches au monde en matière de radio. Mes chers auditeurs, nous ne l'aurons pas. Quand nous vivons dans un pays où le plus gros des dépenses sont destinées au budget publicitaire ou bien encore à ceux de l'armement, nous apprenons davantage ce que résister veut dire. Mais nous aurons sans doute l'occasion de revenir plus tard sur l'avenir des radios associatives. En attendant, voici le sommaire de cette matinale ensoleillée. Dans notre revue de presse, Chou et Fadaise, Elsa Gourmand se fera un plaisir de vous délivrer l'actualité. Dans la chemise à rayures, nous vous inviterons à prendre place devant le virulent combat qui oppose les élus du conseil municipal de la ville de Sainte-Afrique quant au partenariat de la commune avec le géant Super U. Mais avant toute chose et pour commencer en beauté cette matinale aux nouvelles pas très réjouissantes, Maestro Music.
La lune en sourtis de l'escure, la lune en passe à mon ségur, et per caminoulé d'azur, nénan, 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 sans qu'abis tout et cantara, sans que sa tout enseignara, sans qu'aimant tout et portara, dormis nénan,
la pradoa la fun, sautan la ri, vieron sin pun,
venez d'entendre la mal coiffée. Je trouve que ça nous va bien parce qu'on est deux filles dans le studio. C'est lundi matin, on n'est pas très bien coiffées aussi.
Et avec le casque, ça arrange rien.
Hein. Ça arrange rien. Heureusement, à la radio, on nous voit pas. Ouf. Donc maintenant, on va passer à Chou et Fadaise, la revue de presse avec Elsa Gourmand.
Une revue de presse envers et contre tout. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir déteint. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6h du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme, il n'y pense pas. Il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents, doucement. Car le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure 3 jours, 3 nuits, sans manger. Jacques Prévert, La Grasse Matinée. Un poème qui date de 1937. Et puis, nous sommes en 2011 et la pauvreté a la vie dure. Encore aujourd'hui, elle ne cesse d'étendre son ombre délétère sur le monde et en Europe. Nos décideurs lui donnent même un petit coup de pouce dans son entreprise de destruction sociale. Le PEAD, le Programme Européen d'Aide aux Plus Démunis, est en voie de dissolution. Et ce sont 18 millions de personnes qui pâtiraient de cette disparition. C'est Politis qui revient sur ce thème, dont nous avons ici d'ailleurs déjà parlé avec Michel Guiraud, le nouveau responsable départemental des Restos du Cœur. Alors qu'est-ce que c'est le PEAD ? Créée en 87 à l'initiative de Coluche, elle est un appendice de la PAC, la politique agricole commune. Son principe paraît simple. Il s'agit d'un mécanisme d'écoulement des stocks de nourriture, viande, lait, céréales, sucre ou beurre, dont les hangars communautaires débordent. En pratique, les pays qui sollicitent l'aide reçoivent une dotation en nature proportionnelle aux besoins qu'ils déclarent. Seulement, depuis plusieurs années, la PAC, elle diminue ses excédents. Merci Z de remettre les choses en ordre. Merci. Donc depuis plusieurs années, la PAC diminue donc ses excédents, c'est-à-dire que les hangars en question, y a moins de choses dedans. Donc Bruxelles s'est mise à compléter le PEAD par de l'argent. Au début, ça ne représentait pas grand-chose, mais avec la crise agricole de 2008 et 2009, les surplus alimentaires se sont effondrés. En conséquence de quoi, Bruxelles a pallié ce manque en argent. Ça représente plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, il y a plusieurs pays qui ne sollicitent pas le PEAD, ils se débrouillent. Alors c'est l'Allemagne, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la République tchèque et le Royaume-Uni. Ils ont vu cette évolution donc d'un très très mauvais œil. Pour eux, le PEAD a changé de fonction. De débouché pour les excédents agricoles, il est devenu une aide sociale déguisée, alimentée par le budget de la PAC et outrepasse donc le périmètre des traités européens. Et donc, le 13 avril dernier, la Cour de justice européenne leur a donné raison à ces pays et a interdit à Bruxelles de reconduire son enveloppe. Donc en 2013, il n'y aura plus rien, tout simplement. 18 millions de personnes sont concernées, elles n'auront plus rien à bouffer. Par exemple, en Pologne et en Roumanie, il faut savoir que l'aide alimentaire dépend en quasi-totalité de ce soutien, de la PEAD. Donc là,
on s'en fout, quoi.
Ils peuvent crever, voilà. Les pauvres, c'est pas grave. Donc il y a quand même le bras de fer qui se poursuit au niveau européen. Le prochain round, c'est le 9 décembre, avec le prochain Conseil européen des chefs d'État, en espérant qu'ils trouvent un compromis. Les compromis, ça c'est bien les compromis des fois, mais de compromis il n'en est pas question pour Israël. Face à la première victoire diplomatique palestinienne, avec son admission à l'UNESCO, la réaction du gouvernement israélien ne s'est pas fait attendre. Extension des colonies à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, et gel des fonds dus à l'autorité palestinienne. Alors c'est toujours Politis qui analyse cette nouvelle donne, ainsi que la signification du vote négatif des États-Unis et du vote positif de la France à l'entrée de la Palestine à l'UNESCO. Et sur la Palestine, de son côté, l'hebdomadaire La Terre propose un reportage sur l'enfer quotidien des agriculteurs palestiniens dont les terres sont coupées par les colonies israéliennes et par le mur qui a été érigé en 2002. Le journal donne la parole à Annie, un agriculteur qui habite Massara, un village de Cisjordanie divisé par le mur et encerclé de colonies. Alors, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 500 000 colons en Cisjordanie. Clôtures, checkpoints et murs israéliens ont amputé de 40% les territoires palestiniens de Cisjordanie, définis par les frontières de 1967. L'armée contrôle, donc Tsahal, hein, l'armée israélienne, contrôle l'accès aux champs des paysans qui doivent avoir un laissez-passer délivré au compte-gouttes par les autorités israéliennes. Et à Massara, seuls 20% des paysans en ont un. Les autres doivent renoncer à leurs terres. Donc avec cette politique, les Israéliens font finalement tout pour que les Palestiniens abandonnent leurs terres. Hein, classique. Résultat, les paysans en renoncent par lassitude et beaucoup de champs sont en friche. Et bon, c'est pas innocent, car selon une loi ancienne, un champ laissé en friche plus de 3 ans peut devenir propriété d'Israël.
Tranquille, comme ça.
Voilà. Et puis, il y a aussi le problème de l'eau. Alors, toujours dans la terre, hein, Israël s'approprie l'eau de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain, qui est sous contrôle israélien, et qui représente un tiers du territoire de Cisjordanie. Plus de 9000 colons y vivent et s'approprient 83% des ressources en eau, 700 millions de mètres cubes par an pour leurs grandes exploitations et leurs besoins personnels. Entre 1967 et 1994, les Palestiniens n'ont pas eu le droit d'exploiter l'eau. Avec les accords d'Oslo en 1993, Israël devait apporter aux Palestiniens 40 000 millions de mètres cubes d'eau par an, et à ce jour, c'est à peine 11 millions qui ont été donnés. Donc il y a un agriculteur qui raconte, hein, on doit faire 27 km aller et 27 km retour en tracteur pour acheter 3 mètres cubes d'eau. Les puits qui alimentent nos terres, le puits qui alimente nos terres n'est qu'à 1 km d'ici, mais il ne sert qu'aux colons et à leurs plantations. Il y a tant d'eau ici que ça pourrait alimenter toute la région, mais ils refusent qu'on y accède. Ils veulent qu'on parte pour prendre nos terres. Bon, l'article continue ainsi, hein, usés les Palestiniens quittent leurs terres, donc de 300 000 en 67, ils ne sont plus que 80 000 aujourd'hui. Ceux qui restent regardent avec désolation les champs verdoyants des colons qui étaient les leurs autrefois et dont la production finit parfois sur nos étals en France.
Donc en vert et contre tout, en effet.
Terrible, hein. Alors on ne sait jamais, hein, y a un poème de Mahmoud Darwish, un jour viendra, un autre jour viendra.
C'est un Palestinien ?
Mahmoud Darwish, oui, un Palestinien, célèbre poète palestinien. Donc ça c'est tiré du recueil qui s'intitule « Ne t'excuse pas » et c'est traduit par Elias Sambar, qui travaille à l'UNESCO d'ailleurs, palestinien aussi. « Un autre jour viendra, féminin, au signe chantant, au salut et au verbe azuréen. Tout est féminin, hors du passé. L'eau s'écoule des mamelles de la pierre. Pas de poussière, pas de sécheresse, pas de perte. » Et les colombes font la sieste dans un char abandonné quand elles ne trouvent pas un petit nid dans le lit des amants.
C'est beau. Laïla Chahid, à Mourdon, on avait vraiment discuté longtemps de ça,
ouais.
des terres et du
problème. Oui, c'est un gros problème, hein, là-bas. Vraiment, il y a... C'est aussi une entreprise de destruction. Un autre jour viendra donc de Darwish. Et par contre, les jours sont comptés pour Hans Skinner, je ne sais pas si je prononce bien. C'est un Américain qui attend depuis sa condamnation en 1995 dans les couloirs de la mort au Texas. Donc c'est Luma qui retrace son histoire aujourd'hui. Accusé du meurtre de sa compagne et de ses deux fils, il a toujours clamé son innocence. Alors je crois qu'il a été... Par deux fois, son exécution a été retardée. Il demande entre autres que des tests ADN soient pratiqués, tests qui selon lui le blanchiraient. Mais le tribunal texan a rejeté cette demande de la dernière chance sans aucune explication. Donc il doit être exécuté mercredi.
T'as que ça comme bonne nouvelle ?
Oui, je continue. Oui, ça va être comme ça, la revue de presse. Alors, ce condamné à mort, bah, ça m'a fait penser à un poème de Jean Genet qui s'appelle « Le condamné à mort ». Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul, je vais mourir. Ô viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tue, escalade, mort, mais viens. Pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche. Amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Ô, traverse les murs. S'il le faut, marche au bord des toits, des océans. Couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort. C'est beau ? Bon, c'est pas gay, mais c'est beau.
C'est clair. Je pourrais faire juste une petite parenthèse.
Vas-y, vas-y.
J'ai lu un livre de Jacqueline Kellen qui s'appelle L'esprit de solitude. Il y a une grosse partie dedans qui parle des philosophes, de ces écrivains, de ces peintres qui ont demeuré en prison, soit parce qu'ils faisaient de la résistance, soit pour d'autres raisons, parce qu'ils dérangeaient. Et ça a pu durer des années, des mois, voire des années pour certains. Et en fait, ça a été, ils ont écrit beaucoup de poèmes et de textes qui sont nés de là et d'une force au lieu de s'abattre. Certains avant la mort qui étaient condamnés, d'autres pas. C'est superbe. Ça me faisait penser à
ça. Et ça s'appelle comment ce livre ?
L'esprit de solitude de Jacqueline Kellen.
Et c'est aux éditions. Michel, je te pose une colle.
Tout à fait.
Allez, on continue dans les mauvaises nouvelles. Autre pays, donc, autre drame. Le 11 mars 2011, la catastrophe de Fukushima nous révélait que le Japon avait presque autant de réacteurs nucléaires que la France. Eh ouais, il y en a 54 pour le Japon et 59 pour nous. Alors c'est dans le mensuel L'Histoire, l'archéologue et historien Laurent Nespoulos s'interroge sur l'importance du nucléaire civil dans le seul pays frappé par la bombe atomique. C'est une bonne question, je trouve.
Tout à fait pertinente.
Ouais. Pour élucider ce paradoxe, il faut comprendre les relations qu'entretiennent les Japonais avec Hiroshima et plus généralement avec le nucléaire. Alors, d'un point de vue historique, tout d'abord. Alors, les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki ont provoqué, c'est vrai, un traumatisme profond pour ceux qui les ont vécus. Mais il faut savoir qu'à partir de 1944, il y a une soixantaine de villes japonaises qui avaient subi des raids aériens d'une extrême violence. Il y a Tokyo, Osaka, Kobe, et ça avait fait effectivement des milliers et des milliers de morts aussi. Les bombardements atomiques pour la majorité des Japonais de l'époque n'étaient donc qu'un des aspects des horreurs de la guerre. Si tu veux, si ça n'a pas...
D'accord, il y a
Tellement d'autres choses que... voilà, donc finalement, dans l'immédiate après-guerre, Hiroshima reste invisible. Hiroshima, les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, bon, on n'en parle pas plus que ça. À cela s'ajoute l'occupation américaine, donc de septembre 45 à septembre 52, oui, de septembre 45 à septembre 52. Et il y a une censure américaine qui a limité le nombre de publications sur le thème de la bombe nucléaire. Donc les Japonais ont été maintenus dans une ignorance relative.
C'est ça.
De plus, les États-Unis se sont appuyés sur des hommes politiques japonais conservateurs qui ont plutôt éludé la question des souffrances de la guerre. Ils ne voulaient pas faire de vagues, on ne va pas se fâcher avec les États-Unis. Finalement, ce n'est que peu à peu que les Japonais et le reste du monde ont découvert que les bombes, ce qu'avaient fait, enfin, vraiment les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, et entre autres aussi qu'elles continuaient de tuer. Alors même s'il existe un mémorial pour la paix à Nagasaki et à Hiroshima, ces lieux sont plus destinés à témoigner des horreurs de la guerre que de la terreur nucléaire. D'un point de vue politique, alors c'est dans les années 60 qu'un programme nucléaire civil est lancé au Japon. Les autorités politiques japonaises opposent, pour parler de l'énergie nucléaire, utilisation militaire et utilisation pacifiste. Ainsi, comme ça, ils ont rassuré l'opinion pour qui l'atome représentait un danger. En plus de ça, économiquement, les années 60 et 70 sont une période de haute croissance. Il faut donc de l'énergie pour l'industrie et pour le modèle consumériste en général.
Et quelle énergie est utilisée et très efficace dans ces cas-là ?
Le nucléaire. Donc voilà, et en plus, le nucléaire était la garantie d'une plus grande autonomie. Au Japon, donc, il y a eu très peu de contestations du nucléaire. Chez nous, bon, en Occident, bon, il y en a eu quand même, hein, mais dans les années 70... Et bizarrement, ce sont au Japon, ça c'est très étrange, ce sont les plus grands spécialistes du nucléaire qui s'y sont opposés.
D'accord.
Mais on ne les a absolument pas écoutés.
Et ça rejoint ce que tu disais sur l'ignorance en fait des gens ou le refoulement de ça. Parce que Kotoe, quand on a fait vendredi dernier dans notre matinale spéciale Japon, elle parlait de l'après-Fukushima et il y a une grande majorité de gens qui refoulent ça, qui nient, qui... Non,
c'est... Ouais, c'est... Et même la catastrophe de Tchernobyl n'a pas vraiment eu d'impact sur l'opinion japonaise quant à son propre nucléaire. Voilà, c'est étonnant, hein. Donc Fukushima devient symboliquement le Tchernobyl du Japon et, alors, nous dit l'auteur de l'article, mettra peut-être un terme à l'idée d'un nucléaire pacifique. Alors, je vais terminer juste toujours à propos du nucléaire. C'est dans le Marianne de cette semaine, Japon, les coûts du désastre. Donc, le Japon se débat toujours dans le désastre de Fukushima, où s'accumulent les problèmes techniques, humains, sanitaires et financiers. Alors, le 2 novembre, par exemple, TEPCO annonçait... Alors, TEPCO, je crois que c'est l'entreprise qui gère... Voilà. TEPCO annonçait qu'une réaction de fission nucléaire non contrôlée avait repris dans le réacteur numéro 2, obligeant à y injecter un mélange d'eau et d'acide borique. Alors, concernant les problèmes humains, il y a au moins 80 000 personnes qui ont été évacuées de la zone de sécurité. On ne sait pas combien reviendront et quand. Voilà. Et quelles portions du territoire devront être définitivement gelées. Problèmes sanitaires, les études sont en cours. Problèmes techniques, la centrale devait être neutralisée et sécurisée d'ici à la fin de l'année. Les récents incidents rendent cette échéance improbable et l'on parle toujours d'une trentaine d'années de travaux pour démanteler le site. Problème financier enfin, fin octobre, TEPCO appelait au secours le gouvernement japonais, lui demandant de lui fournir une aide publique de 9,4 milliards d'euros. Une première avance pour commencer à indemniser les populations, mais aussi les entreprises touchées par la catastrophe. Car au total, là encore les chiffres varient grandement, certains évaluant à plus de 45 milliards d'euros le total des indemnisations, d'autres évoquent le chiffre de 100 milliards d'euros.
Bien sûr, toute la croissance qui est touchée. Ouais. Enfin, une grosse partie.
Et alors, la couille dans le potage ou la cerise, je ne sais pas comment dire. TEPCO. Alors, TEPCO, c'est une des principales sociétés émettrices d'obligations au Japon. Et une grande quantité de ces titres ont été achetés par des fonds de pension japonais, de sorte qu'une défaillance de l'électricien pourrait empêcher le versement de nombreuses retraites. Ah bon, ça c'est au niveau économique, c'est aussi, voilà. Du coup, ce groupe privé, nous dit Marianne, peut tout se permettre à mentir à répétition sur la gravité de la situation, continuer à financer le puissant lobby du nucléaire et exiger d'être refinancé sur fonds publics.
C'est voilà. Terrible, c'est vraiment les mêmes qui chapeautent tout.
Ouais, terrible. Voilà.
Eh ben, dis donc.
Et j'ai pas trouvé de poème sur le nucléaire ou sur Hiroshima, j'ai cherché,
on
mais
va
j'ai pas trouvé. Ouais,
on va en créer
faudrait
un.
Peut-être en créer un. Voilà, voilà.
Merci
d'ailleurs,
beaucoup,
oui, pendant que j'y suis. Non, mais en plus, j'ai cherché. Je me suis dit, je vais chercher dans les poètes. Après 45, tu sais, les grands poètes, y avait Prévert, Éluard, Aragon, y en a plein. Que dalle. Et c'est vrai, je pense, bon, au lendemain de la guerre, le Japon, ça n'a pas... Hiroshima, Nagasaki, ça n'a pas traumatisé les consciences.
C'est fou. Et là, en réaction, ça pourrait faire une cerise sur le micro ou une couille dans le potage. Ils sont en train de créer une immense ville verte. Pas très loin de là, de l'explosion, enfin de Fukushima. Ouais. C'est assez rigolo parce qu'en fait, énergie solaire, plantation, enfin une grande ville verte avec plein de pognon mis dedans, mais c'est complètement stupide puisque tout est
tout est irradié,
mort,
ouais.
Tout est c'est.
Va enfin, comprendre, bon. Charles. Voilà pour cette revue de presse joyeuse, optimiste et détendue.
Ensoleillée, plutôt nuageuse. Donc merci beaucoup Elsa. On va continuer avec Chanson Plus, Buis Fleuré. On va rigoler parce que...
On en a besoin là.
Ouais, mais avec de l'humour, ils vont parler du chômage, de la crise. Ça va très bien avec cette revue de presse. Musique.
Chômage au fond de la vallée, c'est là la vraie fatalité. Voici quand la nuit étoilée, un sans-emploi nous est donné. Séraphin de droit, il se nomme, il est cadré et respecté. Aujourd'hui, pauvre petit homme, voilà que tu es licencié. Quand la cloche sonne, sonne, c'est à l'armée du salut que se rassemblent les hommes, les hommes qui ont tout perdu. Armée froide qui résonne, en haillons et peu vêtus. Plus de 3 millions en tonnes, le chant triste et monotone, c'est la chanson du chanteur. chômage au fond de la vallée, peu de familles sont épargnées. Voilà qu'après 19 années, le séraphin est remercié. Qu'arrive-t-il à quel marasme, sa femme jette près de l'évier. Ses deux fillettes font de l'asthme, son vieux chien est paralysé. Quand la cloche sonne, sonne, c'est la douleur des vaincus qui au fond des cœurs résonne comme un cri d'amour perdu. Et l'assistante sociale ne pourra rien y changer. Séraphin est au plus mal par la banque locale avec un grand pistolet. Chômage au fond de la vallée, un drame horrible est arrivé. Hier un homme a pris en otage le patron du crédit. Séraphin de droit il se nomme, il était cadre et respecté. Aujourd'hui, pauvre petit homme, les policiers l'ont arrêté. Quand la cloche sonne, sonne, c'est chaque jour à midi que se rassemblent les hommes pour un repas entre amis. Séraphin est tout sourire, plus besoin de RMI. À l'atelier on l'admire, on assure son avenir. À la prison de Fleury,
à la prison de
À présent, chers auditeurs, place à la chemise à rayures, une chemise à rayures aussi atypique que virulente, puisqu'il s'agit bien d'un combat.
Les affrontements ont fait rage à la mairie de Sainte-Afrique lors du conseil municipal du 21 octobre dernier. La raison, le vote d'une convention d'aménagement urbain en partenariat avec Super U. Super U qui a obtenu l'autorisation de doubler sa surface.
C'est la CDAC, la Commission départementale d'aménagement commercial, qui a donné son feu vert. Cette décision a précipité la mise en place du projet de réaménagement de cette zone.
Cet aménagement prévu par la municipalité coûte 1 150 000 euros. La moitié représente l'argent de la collectivité, l'autre celle que Super U investit dans le projet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dossier a déclenché un combat musclé entre la majorité et l'opposition.
Sur le ring, Alain Fauconnier, maire de Sainte-Afrique, et Sébastien David, élu de l'opposition et membre de l'Association des commerçants de Sainte-Afrique Dynamique.
L'opposition et quelques élus de la majorité ralliés à nous ont voté non pas contre le projet, mais voté contre la convention qui liait la mairie et le projet de Super U et les bâtiments qu'il y aura autour. Parce que la collectivité contribue à hauteur de plus de 500 000 euros dans les voiries pour aider ce projet. Je pense que donner un feu vert à l'extension de Super U n'est pas bon. Et alors on va nous prétexter que la CDAC, la Commission départementale d'aménagement commercial, a donné son feu vert. Elle a donné son feu vert. Mais qui a donné son feu vert ? Monsieur Fauconnier, Madame Cossat et Madame Hart, représentant la mairie de Billot. Ce ne sont pas les mêmes qui votent en conseil municipal ici ? Alors, permettez-moi, j'emploie un mot fort, mais fumisterie.
C'est pas un vote sur l'extension du Super U, hein. C'est d'abord un vote sur un aménagement d'entrée de ville, hein. Et un aménagement urbanistique dans lequel il y a effectivement l'extension de Super U. Mais je veux pas laisser penser ou laisser croire qu'on a fait un aménagement pour Super U. Donc ça c'est le premier point. La deuxième remarque que je veux faire, aujourd'hui, Super U existe. Il existe et il a des accès dans un secteur où il n'y a pas que Super U. Il y a aussi le garage Renault, il y a la gendarmerie. Ces accès-là sont dans une situation absolument catastrophique. Il y a souvent des accidents. Jusqu'à maintenant, heureusement, ma connaissance, il n'y en a pas eu de mortels, mais il y en a eu quelques-uns de graves. Donc, il convenait de faire un aménagement. Donc, c'est un aménagement urbanistique dans lequel il y a un aménagement commercial qui touche Super U, qui touche le garage Renault, hein, et qui touchera et qui aura pour conséquence, outre l'extension de cette grande surface, avec des aménagements de galeries, comme ça se fait dans toutes les villes moyennes et plus grandes de France et de Navarre, mais également des aménagements qui seront en maîtrise directe de la SEMSACA, la société d'économie dans laquelle la collectivité est majoritaire, et qui pourra, elle, avoir la main sur les enjeux commerciaux divers et variés. Voilà.
Alors, combien vont coûter ces aménagements et qui va les financer ?
Et quel impact cela va-t-il avoir sur les petits commerces de Sainte-Afrique ?
Là encore, Alain Fauconnier et Sébastien David ne sont pas du tout d'accord.
Parler d'un partenariat privé-public dans l'occurrence. Hein. Et la collectivité sera dans une contribution en gros d'une trentaine de pourcents. Hein, voilà. Sachant qu'il y a le conseil général au titre de la voirie, il y aura la SEMSACA au titre de l'opérateur qui fait le portage, et également Super U, bien entendu, qui lui est en partie bénéficiaire de cette opération, voilà, et qui y contribuera. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est pas que cet aspect-là des choses. Aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, qui est un contexte quand même très compliqué pour tout le monde, et en particulier pour l'artisanat, hein. C'est un investissement sur ce site en gros de 15 millions d'euros. Ces 15 millions d'euros, ils auront certes un impact commercial, puisque l'investisseur le fait aussi pour avoir une retombée commerciale, c'est une évidence. Mais il aura indiscutablement un impact sur le commerce en général, tout au moins pendant cette période qui va durer en gros 18 mois, d'investissement lourd, où il y aura des artisans, des commerçants, des gens qui viendront manger, etc. C'est une opération économique.
Est-ce que l'extension donc, de cette fameuse enseigne commerciale était soumise à la participation de fonds publics pour aménager le site extérieur ?
Non, du tout, ça n'a strictement rien à voir. Demain matin, on ne fait rien. Là, demain matin, il n'y a pas d'extension. Hein. On fera un carrefour. On fera un aménagement. Ça ne peut plus durer comme ça. Donc, c'est trop dangereux. De toute façon, il faudra le faire. Alors, ça ne sera pas effectivement un carrefour aussi gigantesque, aussi important peut-être, mais ça sera un carrefour dans lequel on se retrouvera avec deux partenaires pour y participer, le conseil général et la ville. Donc, en fait, qu'on fasse cette opération ou qu'on ne la fasse pas, ça coûtera de toute façon plus cher à la ville si on venait à ne pas le faire. Ça, c'est une évidence. Voilà.
On met 500 000 euros sur la voirie pour les abords de Super U et quelques commerces autour, et on n'apporte pas de solution complémentaire au centre-ville. C'est ça. C'est ce sujet-là pourquoi on conteste fortement l'extension de Super U. Une moyenne surface de 709 mètres carrés, moyenne surface sur la culture et le domestique, ça veut dire qu'on va rentrer en concurrence avec tous les petits commerces, la décoration, l'électroménager, toutes ces choses-là. 700 mètres carrés, c'est trois fois l'espace culturel actuel. Donc, on parle d'extension, mais recitons cette extension. On est sur un projet démentiel. Nous, élus de l'opposition et les quelques élus de la majorité qui se sont rejoints à notre propos, c'est de dire on va créer une dichotomie, une disparité forte entre le système de grande surface avec ses dérives et tout ce que ça peut entraîner, face aux petites structures des petits commerçants de centre-ville. Et on va créer ce déséquilibre qui est déjà altéré et fragilisé par la crise et le contexte économique.
Je ne suis pas naïf, le commerce souffre aujourd'hui en général. Les gens savent que depuis que je suis dans cette mairie, jamais les évolutions de chiffre d'affaires du commerce local n'ont été aussi élevées, n'ont autant progressé, parce qu'il y a une volonté de dynamique. Le dynamisme de la collectivité accompagne le dynamisme des commerçants, qui lui-même, commerçant, accompagne la collectivité. Il y a une espèce d'alchimie entre nous qui fait qu'on bouge. Alors bon, je comprends qu'il y en a. Je comprends que certains puissent se dire attention, non, non. Mais les mêmes qui hurlent, hein, vont probablement servir les artisans qui feront les travaux chez les gens. Hein. Les mêmes. Je crois qu'il y a une espèce de petit bal des faux culs et qu'il faudra arrêter. On ne peut pas être libéral et soutenir des partis libéraux à tout craint, et puis commencer à vouloir être protecteur dès l'instant où ça vous gêne un petit peu. Moi, je suis pour une économie régulée, c'est vrai. Je suis pas pour une économie étatisée. Je suis pas, on n'est pas, on va pas revenir au franquisme, hein, où il y avait des petits commerces partout en Espagne, c'est vrai, c'était la réalité. Aujourd'hui, les choses bougent. Hein, ouais.
Balle des focus, c'est joliment imaginé, ça tu trouves pas Audrey? Bon, en tout cas, c'est un dossier qui reste assez complexe. Hein.
Et oui, une grande surface est-elle l'ennemi du commerce local ou bien favorise-t-elle le dynamisme de toute une ville? Eh bien, la bataille continue.
Ce qui est plus important, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qu'on veut de la ville? Alors moi, ça ne me changera pas. Je ne suis pas un fada des grandes surfaces. Par rapport à d'autres que j'ai entendu hurler, j'ai mon charcutier, j'ai mon boucher, j'ai mon marchand de pain, et on peut me faire une grande surface de 10 000 m², je n'irai pas pour autant. Donc ce n'est pas ça l'enjeu. Aujourd'hui, le constat, c'est le bassin de vie de Sainte-Afrique, en gros, c'est 150 millions d'euros par an en termes de transactions commerciales dans ce domaine-là. 150 millions d'euros. 70 millions d'euros sont dépensés ailleurs qu'à Sainte-Afrique. Parce que les capacités, disons, d'attractivité du pôle commercial est insuffisante, parce qu'il y a des manques dans tel domaine, etc. Le débat qui est posé aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va pouvoir capter un peu de ces 70 millions d'euros pour le commerce local, parce que les gens, quand ils vont à Intermarché ou quand ils vont à Super U ou quand ils viennent au marché à Sainte-Afrique, ils vont pas que là. Ils s'arrêtent quand ils vont, je ne sais pas moi, à l'hôpital. Hein, tout ça, c'est un tout. C'est des chalandises. Et ça, à mon avis, on a l'obligation aujourd'hui de se poser la question comment on arrive à le capter. Je veux ajouter quand même. Et ça, je vous en donne la primeur. C'est que est arrivé hier sur mon bureau, Capelle Guibert à Millau. 8000 m² de surface commerciale. 8000 m² en centre-ville. Enfin, en bordure de la ville, Capelle Guibert. Sans parler... je les ai pas vus s'émouvoir, certains, du fait que sur le Larzac, il va y avoir à la cavalerie magasin des marques ou je sais plus quoi. Il y a un projet sur Millau, sur le côté du viaduc, ce qu'on appellerait l'espace viaduc, de 20 000 m² de commercial. Une ville, ça peut pas être l'accumulation de petites boutiques d'intérêt particuliers. À un moment, il faut avoir un peu plus de hauteur que ça.
On nous parle d'évasion commerciale. Certes, c'est pas Sainte-Afrique l'évasion commerciale, c'est toutes les petites villes et tous les bassins de vie de faible densité où l'évasion commerciale est forte. Nous vous opposez un argument de dire qu'il y a de l'évasion commerciale, donc il faut faire le projet Super U. Il est erroné. Il est erroné pourquoi? Moi, j'ai proposé que dans la convention qui a été signée au dernier conseil municipal, on oppose, elle est signée par trois opérateurs, Super U, la mairie de Sainte-Afrique et la SEMSACA, qu'on associe à cette convention un quatrième opérateur, un quatrième intervenant, qui est l'Association de commerçants, des artisans et des professions libérales. Et qu'on écrive noir sur blanc sur la convention que pour une durée de 20 ans, Super U s'engage à donner 10 000 euros par an. 10 000 euros par an quand on fait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'est-ce que c'est? Qu'on contribue 10 000 euros par an pendant 20 ans à des animations commerciales de centre-ville pour dynamiser ce commerce qui souffre, ces petits qui trinquent tous les jours parce que le client va voir ailleurs, parce que il est tenté par l'achat sur Internet. Voilà, c'est ça. Et là, on oppose des solutions de compensation qui coûtent rien à la collectivité. De dire à Super U, contribuer 10 000 euros par an, c'est un budget publicité comme un autre dans un chiffre d'affaires.
D'un côté donc, la théorie du grand centre commercial qui contribue au dynamisme des centres-villes en limitant les fuites de consommateurs sur Millau, Albi ou Rodez. De l'autre, la crainte que les boutiques des centres-villes soient désertées au profit du géant Super U. Où est la vérité? À moins que le véritable débat soit ailleurs.
Voyons ce qu'en pense Yannick Ferraudet, dirigeant de la Biocoop et conseiller municipal de Sainte-Afrique.
Alors déjà, il faut préciser quand même que le vote qui a eu au conseil municipal, c'est pas pour l'extension ou contre l'extension du Super U, puisque c'était le vote d'une commission, d'une convention d'aménagement dans l'espace de Super U. Donc moi, ce que j'ai précisé, c'est que j'étais favorable aux aménagements urbains et routiers à cet endroit-là. Par contre, ce que j'ai précisé, c'est que je ne pouvais pas ne pas y voir derrière l'extension, effectivement, du Super U qui vient et qui, elle, a été votée précédemment à la CDAC à Rodez, c'est ça. Et donc, ce que j'ai expliqué en tant que gérant gérant de mon propre magasin, c'est que si je votais cet aménagement, j'avais un peu le sentiment de me tirer une balle dans le pied. C'est pour ça que j'ai voté contre. Comme j'ai dit au conseil municipal, c'est que supposons que dans le Super-U, il s'installe 200 mètres carrés d'alimentation bio, eh bien ça correspond à peu près à ce que j'ai dans mon magasin. 200 mètres carrés d'alimentaire bio dans une structure comme le Super-U, c'est tout au plus l'équivalent d'un emploi à temps complet. Alors que dans une structure comme la mienne, c'est l'équivalent de 4 emplois à temps complet. J'en déduis que si Super-U s'étend comme ça et fait, ce qui est fort probable, augmente l'implantation des produits bio dans son magasin, je peux considérer que mes 4 emplois à temps complet sont menacés. J'ai du mal à comprendre que des élus politiques de gauche, en tout cas parce que je suis de gauche, cautionnent en votant notamment la CDAC des extensions de type d'activité commerciale du style hypermarché, tout ça, et qui, on le sait très bien, génèrent de toute façon, de par leur rentabilité et tout ça, génèrent des pertes d'emplois piquées ou génèrent, point de vue du fondement idéologique, des choses auxquelles j'adhère pas. Quelque part, moi, en tant qu'homme de gauche, ça me dérange.
Donc lors de ce dernier conseil municipal, Yannick Ferraudet était parti pour s'abstenir et il s'est senti solidaire de tas d'autres commerçants de Sainte-Afrique. Il faut savoir que c'est le seul élu de la majorité à avoir voté contre cet aménagement. Et même si les avis divergent, sachez que le projet a déjà été voté, Super-U s'agrandira et les travaux de la commune commenceront bientôt. Sujet épineux donc, sachant en plus, donc d'un côté ils sont tous très contradictoires parce que Fauconnier il dit moi de toute façon j'irai pas faire mes courses dans un grand Super-U, n'est-ce pas, mais je donne mon feu vert pour ce partenariat qui est quand même du coup pas super. Et d'un autre côté Sébastien David il est opposé à cette extension et tout ça, ces aménagements, parce que c'est à Sainte-Afrique apparemment il serait d'accord pour la grande surface qui serait à la cavalerie. Donc en effet, balle des faux culs, fumisterie comme ils disent, on peut se demander aussi un petit peu de l'extérieur si en effet c'est tout à fait ça. Donc c'est une déception. Je demandais à Sébastien David justement, mais comment ça se fait que nous habitants on n'ait pas eu notre mot à dire, pourquoi on l'a pas su pour peut-être se mobiliser? Bah parce qu'en fait au conseil municipal ils sont censés nous représenter, nous habitants de Sainte-Afrique. Donc c'est passé sous le nez et peut-être que les commerçants vont faire quelque chose. On suivra ça et de près on vous tiendra au courant s'il se passe quelque chose.
Les communes peuvent organiser des référendums d'initiative populaire au niveau communal aussi, faut le rappeler.
Ouais, il faudrait peut-être que nous on le rappelle,
Pas.
Donc de toute façon, toi et moi, Elsa, je pense qu'on est plutôt circuit court, économie locale, paysans d'urance. En tout cas, moi, j'irai pas à Super-U, ça c'est sûr.
Moi, j'y vais pas. Parce que,
on n'y va déjà pas, donc
on
raison plus pour pas y aller du tout. Toujours pas. Donc, une petite pause musicale avec un CD de la semaine, Aclidée.
Avec mes amis, lune et soleil, nous bâtirons des ponts, bien sûr, des cités d'or et de merveilles, et nous ferons tomber les murs. L'homme n'est pas un aventurier, s'il est parfois un brin explorateur, je le dis, ce n'est pas pour le fâcher, il le fait pour conjurer sa peur. Y'a pas de solution. La seule solution, c'est la paix. La seule solution. Je me suis réveillé dans un train. Mais qu'est-ce que je fais là? Derrière moi, le soleil brille au loin, et moi je pars vers le froid. L'homme n'aime pas partager, s'il a parfois la main sur le cœur, je le dis, ce n'est pas pour la lui couper, il le fait pour conjurer sa peur. Hey, monsieur,
solution, c'est la paix, la seule solution. Passer cette chanson, ce message sans hypocrisie qui s'adapte à chacun sa version. J'en n'est pas musicien, s'il est parfois maître chanteur, je le crie pour les tiens et les miens, j'entends pour conjurer ma peur.
La seule solution, c'est la paix. D'Aclidé, ça c'est un CD de la semaine. Ça y est, la matinale finie, touche à sa fin. Vous avez pu entendre Chou et Fadaise, la revue de presse poétique et nuageuse d'Elsa Gourmand.
J'aime bien le nuageuse.
Et dans la chemise à rayures, bah, c'était le combat de boxe entre Alain Fauconnier et Sébastien David.
Ça chauffe.
Ça chauffe à Saint-Afrique. Du côté musical, Bresserola de La Mal Coiffée, un CD de la semaine. Chauffage au fond. Chômage au fond de la vallée. C'est l'hiver qui approche. De chansons plus bifleurées. La seule solution, donc on vient juste d'entendre d'Aclidé avec Fredo des Ogres de Barbac. Dans cette chanson-là spécialement. Donc les CD de la semaine, vous pouvez les retrouver sur le site internet de Radio Saint-Afrique. Et nous rappelons que du 10 au 13 novembre se déroulera à Camarès les 4e rencontres du film musical de l'habit de Sylvanès. Donc ça se passe au cinéma de Camarès, faut pas confondre. Et on a plein de places à vous offrir, alors appelez-nous au 05 65 49 29 94. Merci à Z pour la technique malgré le petit buzz bug. Merci Elsa et à bientôt.
À tout bientôt. Mais on se retrouve demain. On recommence hein, demain.
Et ça recommence demain. On n'est pas couché, hein.
Ah non.
Eh merde. We'll be right back.